Bonjour, chers auditeurs. Ici Maude Léveillé, étudiante en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme. Pour notre émission aujourd'hui, nous recevrons le professeur d'histoire, Nicolas Fournier. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Je vais vous faire une brève biographie de Nicolas Fournier. Il est un professeur au Collège de Cégep de Saint-Jérôme. Il a fait une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Il est spécialisé dans l'histoire de l'Allemagne, en particulier au niveau du nazisme. Nous allons parler de l'Anschluss, soit l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, qui s'est déroulée le 12 mars 1938. Nous allons commencer l'entrevue. J'ai donc une première question pour vous, Nicolas. Lorsqu'il est question de l'Anschluss, s'agit-il plus d'une annexion ou d'un rattachement?
Il faut distinguer les deux termes. En mars 1938, l'Allemagne nazie va mettre la main sur l'Autriche. Le terme « annexion » met un peu plus en évidence le fait que ça serait une conquête forcée, donc que l'Allemagne nazie aurait pris possession par la force, par la contrainte, d'une Autriche libre. Le rattachement, au contraire, laisse plus présumer que l'Autriche aurait été consentante, donc de voir ses territoires rattachés à l'Allemagne, et de voir la disparition de leurs frontières communes. C'est un sujet qui passionne beaucoup les historiens, mais fort probablement, il faut reconnaître que quand même, il y avait une certaine volonté populaire de la part de l'Autriche, de la part de certains fonctionnaires autrichiens, de la part de certains citoyens autrichiens d'être attachés à l'Allemagne. Par contre, pour faire la nuance, faut pas penser non plus que tous les Autrichiens vont de façon enthousiaste accepter l'unification de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc, il y a quand même des nuances à apporter. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que la conquête de l'Autriche par l'Allemagne a été une conquête extrêmement facile. Donc, de pouvoir parler d'annexion militaire, c'est probablement là nettement exagéré.
Donc, selon vous, ça serait plus de l'annexion?
Ça serait probablement beaucoup plus un rattachement. Dans la mesure où, au contraire, il y aurait une bonne partie de la société autrichienne qui aurait été plutôt d'accord avec le rattachement à l'Allemagne. Donc, ça serait beaucoup plus difficile de voir que c'est une annexion militaire pure et simple parce qu'il y aura à peu près aucune réelle résistance concrète de la part de l'Autriche.
Parfait. Et comment l'Anschluss est actuellement perçu par les historiens?
Il y a un gros débat parmi les chercheurs et parmi les historiens, justement sur cette question-là. Il y a des historiens qui vont dire que l'Autriche, justement, est un peu victime de la politique étrangère allemande. Il y en a même qui parlent du viol de l'Autriche, comme quoi que Hitler avait littéralement violé la souveraineté autrichienne. Le problème, c'est qu'il y a eu quand même un grand consentement de la part de la société autrichienne. Donc, même s'il y a des gens qui vont s'opposer, on peut penser là au chancelier Dollfuss ou von Schuschnigg, il y a une bonne partie des citoyens qui vont au contraire applaudir le rattachement à l'Allemagne.
Parfait. J'aurais donc une deuxième question qui a fait le mieux cerner le sujet de l'interview. Quel était le contexte avant la création de l'Anschluss?
C'est un projet qui remonte à il y a très très longtemps, probablement au 19e siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça date seulement des années 1870. Donc avant, il y avait plusieurs États allemands qui formaient, dans le fond, l'Europe centrale. À partir des années 1850, il y a une confédération germanique qui regroupe bon, l'essentiel des États germaniques. Et à partir des années 1850-1860, il y a une montée du nationalisme allemand. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté populaire dans les États allemands de former un seul et même État. Il y a deux États qui vont être en compétition pour réaliser l'unification. Au nord, il y a la Prusse, qui a pour capitale Berlin, et au sud, il y a l'Autriche, qui a pour capitale Vienne. Puis, ce sont les deux plus grandes puissances de la Confédération germanique. Donc, les deux puissances sont à rivalité pour réussir l'unification. Ça aurait été tout à fait possible d'envisager que l'unification allemande aurait pu être réalisée par l'Autriche. Donc, pour quel cas, l'Autriche se serait ramassée à faire non seulement partie de l'Allemagne, mais en quelque sorte à la diriger. Donc, on parle de l'Allemagne et de l'Autriche comme étant deux pays qui ont énormément d'atomes crochus. Bon, la langue germanique, une culture, une histoire quand même assez similaire. Il y a quand même des distinctions au niveau, entre autres, de la religion. Beaucoup d'Allemands sont protestants. L'essentiel des Autrichiens sont catholiques. Donc, c'est déjà un projet qui existe il y a très très longtemps. Une fois que la Prusse va réaliser l'unification allemande, il va y avoir, à partir des années 1870-1880, l'idée du pan-germanisme. C'est-à-dire l'idée que l'Allemagne qui a été construite dans les années 1870 est beaucoup trop petite et qu'on devrait l'agrandir. Donc, aller chercher tout les territoires qui sont occupés par des Allemands en Europe, donc que ce soit les Autrichiens, une partie de la Pologne. Donc, c'est cette idée-là que Hitler va entre autres beaucoup, beaucoup développer dans ce qu'on appelle le Lebensraum pour espérer avoir une très, très grande Allemagne. Donc, l'idée qu'il y ait une espèce d'union entre l'Allemagne et l'Autriche, ça date de bien avant l'arrivée d'Hitler.
Parfait. Et Et dans quel but cette union a-t-elle été créée?
L'union a été créée parce que justement Adolf Hitler voyait dans l'Autriche une patrie allemande. Hitler lui-même est autrichien de naissance, il a grandi, il a passé une bonne partie de sa jeunesse en Autriche. Donc, il y a l'idée que l'Autriche devrait faire partie de l'Allemagne. D'ailleurs, Hitler développe l'idée du pan-germanisme, l'idée qu'on devrait construire une grande Allemagne. Et dans ce projet-là, naturellement, l'Autriche, c'est un peu le premier territoire sur lequel il faut mettre la main. Parce que du point de vue d'Hitler, l'Autriche, c'est même pas un territoire étranger. Donc, c'est un territoire allemand.
Parfait. Comment s'est déroulée cette annexion?
Somme toute, quand même assez tranquillement. Donc, c'est pour ça que quand on parle du viol de l'Autriche ou d'une conquête militaire, c'est probablement exagéré parce que dans les faits, si conquête il y a eu, ça a été plutôt aisé pour les Allemands. Faut comprendre quand même que l'armée allemande a été sur le pied de guerre, a franchi illégalement la frontière avec l'Autriche le 12 mars 1938. Par contre, il n'y a aucune réelle opération militaire qui est menée, c'est-à-dire il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de perte de vies humaines. Donc, c'est plus une occupation du territoire qu'une conquête ou qu'une annexion.
C'est assez pacifique, dans le fond.
C'était plutôt pacifique. D'ailleurs, il y a beaucoup de soldats qui vont écrire dans leur mémoire que le plus grand danger lorsqu'ils sont arrivés en Autriche, c'était de recevoir des bouquets de fleurs dans les yeux et d'avoir un œil crevé par l'épine d'une rose. Donc, c'est souvent ce qui ressort dans les mémoires des soldats. Lorsqu'ils sont arrivés en Autriche, la grande majorité des Autrichiens les accueillaient avec beaucoup d'enthousiasme. La route jusqu'à Vienne, ça prenait beaucoup de temps parce que les gens les arrêtaient, les félicitaient. Les soldats allemands recevaient des fleurs, recevaient à boire. Il y a des Autrichiennes qui les embrassaient. Donc, ça n'a pas été une conquête militaire extrêmement ardue de ce point de vue-là. Donc, l'annexion s'est passée, somme toute, assez bien du point de vue allemand.
Et qu'est-ce que l'Allemagne et l'Autriche ont-ils en commun?
Il y a une langue, principalement. Il y a également beaucoup de caractéristiques communes. Il y a surtout aussi une histoire commune. C'est-à-dire même à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de la période moderne où, bon, la plupart des États allemands étaient divisés, il y a quand même énormément d'échanges commerciaux, d'échanges culturels entre les territoires autrichiens, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les territoires allemands. Puis, lors du traité de Versailles, il va y avoir une clause avec laquelle les alliés vont interdire à l'Allemagne et à l'Autriche de former une union pour essayer d'éviter qu'il y ait à nouveau une alliance comme ça a été le cas dans la guerre 14-18. Parce qu'on sait que, bon, pendant la Première Guerre mondiale, puis aussi dans les années qui précèdent, l'Allemagne et l'Autriche, c'est un peu une alliance naturelle. Donc, dans les années 20, les alliés vont voir une alliance entre l'Allemagne et l'Autriche comme un possible retour à la guerre. Donc, déjà, on peut dire qu'il y a énormément de liens entre les deux États là, avant l'Anschluss.
Je sais que tu en avais parlé un petit peu plus tôt, mais la population autrichienne était principalement en accord avec cette annexion.
Il ne faut pas penser qu'il y avait une unanimité, bien au contraire, sauf que ce qu'on a comme anecdote, comme histoire, comme récit, comme témoignage sur le terrain, c'est quand même un rattachement qui est plutôt bien accueilli. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens accueillaient à bras ouverts les soldats. Lorsque Hitler va arriver à Vienne le 14 mars 1938, donc à peine deux jours après le rattachement, il y a 250-300 000 Viennois qui vont venir l'accueillir pour son discours. L'autre chose également, c'est que dans les années qui précèdent l'Anschluss, même si le gouvernement autrichien va chercher justement à conserver la souveraineté de son pays, il y a plusieurs groupes que ce soit des groupes nazis ou pas, qui vont souhaiter le rattachement à l'Allemagne. Donc, également, il y a quand même des gens qui sont opposés. On peut penser aux Juifs, notamment. Il y a environ 200 000 Juifs qui vivaient en Autriche avant l'Anschluss. Il y a des Juifs qui, sentant un peu l'orage qui ronde, vont quitter l'Autriche précipitamment. En 1934, il y a l'écrivain Stefan Zweig qui s'enfuit. Puis en 1938, assez rapidement, il y a Sigmund Freud qui va partir de l'Autriche. D'ailleurs, Freud, pour le restant de sa vie, va être extrêmement fâché contre ses compatriotes parce que Freud va dire littéralement que les Autrichiens, qui étaient pourtant des gens accueillants, tolérants, ouverts, très inclusifs, se sont complètement vendus au nazisme. Et Freud va refuser de retourner plus tard en Autriche. Il va faire sa vie à Londres, il va passer le restant de sa vie en Angleterre. Justement en disant que c'est complètement désespérant à quel point les Autrichiens ont laissé tomber certaines minorités.
Donc Freud a plus vu une soumission?
Freud a vu une soumission, oui. Et également, Freud, ce qui l'a déçu énormément, c'est de voir que la vieille société autrichienne, qui remonte à l'époque de l'Autriche-Hongrie, où il y avait une société très multiethnique, tombe complètement en morceaux pour se rallier au nazisme.
Parfait. Et quel était le rapport de le coup d'État en Autriche et l'Anschluss?
Dès l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, il y a des pressions qui sont faites sur l'Autriche pour un rattachement. D'ailleurs, il y a un parti autrichien nazi qui est extrêmement actif. D'ailleurs, il y a énormément d'Autrichiens qui éventuellement vont occuper des postes importants au sein du Troisième Reich. Bon, le premier étant bien entendu Adolf Hitler, mais il y a également, par exemple, Adolf Eichmann qui s'est occupé de la solution finale, Ernst Kaltenbrunner qui, après la mort de Reinhard Heydrich, a géré la Gestapo puis est un membre très important des SS. Donc, dès l'arrivée de Hitler, il y a déjà des pressions pour un rattachement entre l'Autriche et l'Allemagne. Et en 1934, ce qui va se passer, c'est justement une tentative de rattachement forcé. Donc, il y a un chancelier qui s'appelle Dollfuss, qui souhaitait conserver la souveraineté autrichienne, qui va mettre des bâtons dans les roues aux nazis. Les nazis autrichiens vont tenter un coup d'État pour essayer de renverser Dollfuss, pour essayer de renverser le pouvoir en place, pour mettre en place un pouvoir nazi fantoche qui demanderait une intervention de l'armée allemande. Finalement, ça ne fonctionnera pas. Les nazis autrichiens ne s'empareront pas du pouvoir. Et en plus, dans les échafaudés, le chancelier Dollfuss va être tué. Donc, c'est un accident. Ça va soulever énormément de problèmes parce que Mussolini, qui est un dictateur fasciste et qui gouverne l'Italie à la même époque, même si éventuellement il va devenir un très proche allié de Hitler, va s'opposer dans un premier temps au rattachement parce qu'il trouve que justement l'Autriche sort un peu de zone tampon face à l'Allemagne, donc un pays dont à l'époque il se méfie beaucoup beaucoup de sa puissance. Donc le coup d'État ne fonctionnera pas. Et ça fait que ça va mettre le projet de l'Anschluss sur la glace. Donc après 1934, en 1935, 1936, au contraire, Hitler va être très très prudent, justement pour essayer de calmer, de rassurer Mussolini.
Et qu'est-ce qu'un plébiscite?
Un plébiscite, c'est une consultation populaire qui a pour but, dans le fond, de connaître le pouls de la population sur une question précise. Donc, on peut le faire dans certaines circonstances, notamment si on veut savoir si un territoire doit être attaché à un autre, si un territoire doit être indépendant ou non.
Parfait. Et quel est son lien avec l'Anschluss?
Probablement pour donner une certaine légitimité à l'Anschluss. Quelques semaines à peine après le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, Hitler va organiser un plébiscite autant en Allemagne qu'en Autriche. Justement pour essayer, si on veut, de faire taire les protestations internationales en disant « ben oui, l'Allemagne a occupé l'Autriche, mais regardez, c'est tout à fait voulu ». Hitler va même aller dire, tenez-vous bien, que c'est dans l'autodétermination des peuples, donc Hitler se montre comme un très très grand démocrate. Donc, il y a un plébiscite qui va être organisé à la fois en Allemagne et en Autriche. Dans les deux cas, ça va donner des résultats assez spectaculaires de plus de 99% de gens qui vont voter en faveur d'un rattachement. Bon, il faut comprendre que même si les résultats n'ont pas été truqués, il y a quand même eu une certaine forme, disons, de manipulation. Donc, les résultats en tant que tels qui se trouvent dans les urnes, fort probablement que ces résultats-là sont valides. Sauf qu'il faut savoir que ce n'était pas un scrutin particulièrement transparent ni particulièrement libre, dans la mesure où les gens qui voulaient voter pour le plébiscite devaient dire publiquement s'ils votaient en faveur ou contre. Et surtout en Autriche, mais aussi en Allemagne, il y avait des fiers à bras, des SA et des SS, qui surveillaient le scrutin. Donc, ça veut dire qu'on savait tout à fait qui était en défaveur. Donc, probablement qu'il y a énormément de gens qui ont voté sous la contrainte.
Beaucoup de pression.
Beaucoup de pression. Donc, même s'il n'y a pas eu, si on veut, là, un trafic, un trucage au niveau des urnes, n'en demande pas moins qu'il y a eu une manipulation. Donc, comme je disais, les résultats vont aller dans le sens voulu par Hitler, 99%. Donc, Hitler va avoir beau jeu de se présenter devant l'opinion mondiale et dire « Regardez, c'était voulu par les deux peuples ». Et ça va jouer quand même un rôle parce que les Français et les Britanniques qui sont au départ opposés à l'Anschluss ne voudront pas prendre de position très très ferme contre Hitler. Est-ce que les Français et les Anglais sont prêts à aller se faire tuer pour dans une deuxième guerre mondiale pour éviter un rattachement entre l'Autriche et l'Allemagne, considérant que probablement beaucoup d'Autrichiens, beaucoup d'Allemands souhaitaient le rattachement? Donc, naturellement, ça va jouer un rôle.
On parle beaucoup de Hitler, mais quel était son rôle avec l'Anschluss?
Hitler va jouer un rôle central. Bon, premièrement, Hitler est Autrichien. Il est né en Autriche, il a grandi, il a vécu en Autriche. Et Hitler a toujours eu une vision de création d'une grande Allemagne. Donc, pour Hitler, le fait d'envahir, que ce soit sous la contrainte ou non, l'Autriche, pour Hitler, c'est même pas une invasion en tant que telle, c'est tout simplement un rattachement le plus naturel du monde. Donc, Hitler, dès les années 20, donc dès les années 1924, 1925, lorsqu'il écrit Mein Kampf, donc plusieurs années avant de prendre le pouvoir, Hitler se prononce fortement en faveur d'un Anschluss, donc d'un rattachement. Hitler va en parler dans Mein Kampf en disant que, dans le fond, c'est un peu le destin de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est pour des questions historiques, si les deux pays ne sont pas déjà un seul et même État. Dès 1933, Hitler va apporter énormément de soutien aux nazis qui se trouvent en Autriche. Hitler va mettre énormément de pression sur les dirigeants autrichiens pour favoriser l'Anschluss. Et ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, en 1935-1936, où l'Anschluss s'est un peu mis sur la glace, ben c'est un peu plus pour essayer de préserver les relations avec Mussolini. Donc, faut voir là-dedans plus un jeu politique qu'une sincérité de la part de Hitler. Donc, Hitler, c'est lui qui guide l'Anschluss, c'est lui qui l'inspire et c'est lui qui va l'organiser pratiquement dans ses moindres détails. Donc, lorsqu'on se ramasse en février, au début mars 1938, Hitler, à plusieurs reprises, convoque ses généraux, prépare l'armée, c'est lui qui mène le bal diplomatique, c'est lui en personne qui va rencontrer le chancelier autrichien von Schuschnigg pour essayer de le forcer à accepter l'Anschluss.
Et comment cette annexion pour lui a aidé à la réalisation de ses projets?
Ben, ça a été vital. Non seulement, c'est sûr que ça l'agrandit nettement l'Allemagne, donc ça donne une plus grande population. D'autre part, c'est très important de comprendre à quel point l'Anschluss va être bénéfique dans tout le bal diplomatique qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Parce que faut se rappeler que l'Allemagne est sous surveillance depuis le traité de Versailles. Donc, le traité de Versailles, c'est un traité qui peut paraître très, très sévère à l'égard de l'Allemagne. C'est un traité, entre autres, qui, dans l'article 231, dit que c'est l'Allemagne qui a causé la Première Guerre mondiale, ce qui, historiquement, maintenant, est nettement contesté. C'est un traité qui empêche l'Allemagne de posséder certains territoires, dont l'Autriche, mais également qui fait perdre à l'Allemagne d'autres territoires, comme, bon, une partie de la Silésie qui va à la Pologne, l'Alsace-Lorraine qui retourne à la France. Et lorsque Hitler arrive au pouvoir en 1933, une des premières choses qu'il fait et qu'il dit publiquement, c'est de dire « on ne respectera plus le traité de Versailles ». Donc, on va se doter de l'armée qu'on veut, on ne réparera plus, on ne remboursera plus notre dette qu'on doit aux alliés. En 1935, Hitler va réarmer ouvertement, publiquement l'Allemagne en dépit des interdictions du traité de Versailles. En 1936, il y a une petite partie allemande qu'on appelle la Rhénanie, que l'Allemagne n'est pas censée occuper militairement. Hitler va envoyer les soldats allemands pour réoccuper ce territoire-là, même si on pensait qu'il allait avoir une intervention très très forte de la part des alliés, particulièrement de la France. Finalement, il ne se passera rien, à part des cris, des protestations de la part là, des diplomates français. Donc ça fait que Hitler, petit à petit, commence à remporter des victoires diplomatiques sur les alliés, les gens qui sont censés l'empêcher d'agir, mais au contraire, le laisse faire. Donc l'Autriche, justement, c'est un bon test, parce que ça fait partie, comme je disais, des ententes entre les alliés et l'Allemagne. L'Anschluss ne peut pas être réalisé. D'ailleurs, il y a des avertissements qui sont envoyés à l'Allemagne par des diplomates français, des diplomates britanniques, en disant « on ne tolérera pas ça ». Et vu la façon dont se passe l'Anschluss, c'est-à-dire très bien, il n'y a pas de guerre, ben ça fait que Hitler remporte une victoire diplomatique assez patente.
Y a-t-il eu beaucoup de conséquences de l'Anschluss?
À propos de l'Autriche, ben il y a eu des conséquences assez majeures dans la mesure où c'est un gros territoire qui est attaché au Troisième Reich. Deuxièmement, ça donne une population supplémentaire à l'Allemagne. On parle d'à peu près 8% du total du Troisième Reich, c'était des gens qui provenaient de l'Autriche. Parmi ces 8%-là, il y a quand même des noms très très connus. Bon, Hitler, naturellement, c'est un Autrichien, mais il y a Adolf Eichmann. Il y a également, qui est peut-être un peu moins connu, Otto Goethe, qui a été le commandant du camp de concentration en banlieue de Cracovie, qu'on peut voir, entre autres, là, dans le film La liste de Schindler. Donc, il y a également aussi un futur gouverneur des Pays-Bas qui s'appelle Arthus Seyss-Inquart. Donc, il y a plusieurs nazis importants qui sont d'origine autrichienne, qui vont se joindre à l'État nazi après Anschluss. Aussi, au niveau des conséquences un peu plus funestes, ben, il faut penser naturellement aux Juifs, parce qu'il y avait 200 000 Juifs qui vivaient en Autriche, principalement à Vienne avant l'Anschluss. Mais une bonne partie de ces gens-là vont être déportés, vont terminer leur vie dans des camps. De nos jours, il y a une petite communauté juive qui existe encore en Autriche. On parle d'environ 7 000 personnes. Donc, on voit, c'est une fraction de ce qu'il y avait avant la guerre. Donc, il y a des conséquences majeures. Donc, la société autrichienne va être nazifiée, comme le reste des territoires du Troisième Reich.
Parfait. Écoutez, c'est très intéressant. Ça donne le goût de se pencher davantage sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci.
Ben, merci à vous.